Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Les injustes au sommet du hit parade, c'est quand même sale pute et sale pédé.
L'orientation se fait souvent en fonction du genre.
Question du sexisme, des préjugés.
Dire que les assignations, les représentations du féminin et du masculin sont des représentations qui sont construites par la société.
Depuis 1911, la journée internationale de la femme tombe un 8 mars. Un temps fort imaginé à l'origine pour obtenir de meilleures conditions de travail et le droit de vote. 100 ans plus tard, la lutte continue et prend de nouvelles formes. Et pourtant, certaines féministes comme Lydia Guirou, présidente de l'association Futur au Féminin, ne sont pas d'accord avec cette journée. Le 8 mars dernier, elle publie ainsi une tribune sur le site du Nouvel Obs. Pour elle, la journée de la femme est synonyme de sexisme. Pourquoi une journée seulement par an serait consacrée aux droits des femmes? Cela voudrait dire qu'on ne s'y intéresse pas le reste de l'année? Une journée institutionnelle serait-elle suffisante pour faire entendre les revendications féministes? Tel est le genre de question que Lydia Guirou soulève. Une réalité que nous tenterons de retranscrire dans cet Univox avec quelques exemples. Si des voix comme celle de Lydia Guirou se font entendre un peu plus chaque année, la journée des droits des femmes reste l'occasion de se poser des questions sur leurs avancées, car les idées reçues, les clichés à l'égard des femmes persistent évidemment toujours. Ainsi, les jeux vidéo pourront-ils un jour être féministes? Les hommes porteront-ils un jour des jupes? Les filières scientifiques accueilleront-elles un jour plus de femmes? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses.
Univox. Parlons jeux vidéo, donc commençons. Marlar, gameuse et féministe, elle a publié il y a quelque temps une tribune qui dénonçait le sexisme dans ce milieu très particulier du jeu vidéo, comme dans le cinéma d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. Il se ressent au niveau professionnel déjà, évidemment, les concepteurs de jeux vidéo sont en majorité des hommes. La différence ici, c'est que les joueuses en font également les frais directement. Premier exemple tiré de cette tribune publiée par Marlar, un éditeur de jeux vidéo avait surnommé un jeu pour débutants « Girlfriend Mode », c'est-à-dire un jeu en gros pour les filles, parce que les filles sont forcément débutantes dans le jeu vidéo. D'autres se font insulter sur les forums de gamers. Est-ce que dans ce domaine-là particulier du jeu vidéo, l'injure sexiste est plus libre ?
Bah, tout est libre, hein, je dirais, puisqu'on voit quand même des jeux où la façon de gagner des points, c'est d'avoir des comportements sexistes, voire d'aller vers des violences sexistes. Donc oui, c'est un espace qui est extrêmement libre au niveau de la parole, au niveau du geste. Et n'oublions pas que c'est un univers virtuel, donc on se sent complètement décomplexé par rapport à ça. C'est pas compliqué d'avoir un comportement qui serait condamné, voire condamné par la loi. En réel, et là on peut parfaitement s'y livrer en toute impunité, donc on se lâche totalement, hein. Donc c'est vrai que c'est facile.
Et puis j'ajoute que Marlar, alors elle est gameuse, elle est féministe, mais elle est aussi développeuse en fait. Donc son métier, c'est de créer des jeux vidéo. Elle travaille dans une société de production de jeux vidéo. Donc elle est la double oppression, je dirais. C'est-à-dire qu'elle travaille dans un univers qui est extrêmement masculin, parce que l'informatique, c'est quelque chose qui est réservé au masculin. Alors, je dis, ça fait partie des préjugés.
On ne voit pas les guillemets à la radio.
Donc, c'est un milieu qui est extrêmement masculin. Hein. En gros, pour écrire des lignes de code, il faut absolument avoir des testicules. C'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, il y a ce premier aspect-là. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, les jeux vidéo en eux-mêmes sont ultra genrés. Les jeux vidéo pour filles, c'est à base de petits poneys, de roses, de maquillage, etc. Hein. Et puis les jeux vidéo pour les garçons, c'est le foot, les voitures et puis la baston, quoi. Hein. En gros, voilà. Et donc ça, on voit tout de suite là, le stéréotype de genre qui assigne au masculin la violence, la force, la brutalité, etc. Pour gagner des points, il faut tuer l'adversaire, aller le plus vite possible, etc. Et puis l'univers féminin, supposé féminin, où on doit faire promener son petit poney ou être la plus jolie sur les podiums.
Et puis, pardon.
Oui, à tel point d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de joueuses, de gameuses, qui prennent des pseudos masculins quand elles vont sur certains types de jeux qui sont théoriquement dédiés à des gamers et pas à des gameuses, et qui vont carrément changer de sexe au moment où elles jouent pour être prises au sérieux, pour pas éventuellement être particulièrement prises comme cible, quand ce sont des jeux de baston, comme tu disais. Ouais. Donc ça va loin, hein, ça va jusqu'à changer ce qu'on est, finalement.
Et puis oui, il y a eu pas mal de gameuses hein, qui, sur des plateformes, sur des forums, etc., ont été victimes d'insultes, d'injures, d'injures même très violentes, hein, violences sexistes très, très dures, voire pour certaines gameuses aux États-Unis, en Angleterre, de menaces de mort.
Jusque-là.
Ah voilà. Oui, jusque-là.
Dans les jeux vidéo, il y a aussi une représentation de la femme. Je pense à Grand Theft Auto, GTA, là, dont on a beaucoup entendu parler. Donc forcément, une bombasse intégrale, très peu vêtue, dans des positions lascives. Ça aussi, ça participe au fait que les jeux vidéo engendrent des clichés.
Bien sûr, hein, vous regardez la tenue des femmes dans les jeux vidéo, elles sont toutes en anneaux short, boom short, avec des soutiens-gorge, genre 95 ou 110E. Enfin, c'est des corps qui n'existent pas et puis qui sont en général assignés à un rôle de décoration ou de voilà
ou de proie.
Ou de proie. Oui.
Vous évoquiez tout à l'heure, Pascal Adeline, le fait que dans certains jeux vidéo, la femme peut être prise pour cible. Enfin, il peut y avoir clairement un enjeu dans le jeu qui fait qu'il faut agresser des femmes dans le jeu. Quelles répercussions ? Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions, comme ils disent, in real life ?
Ah, c'est très difficile à mesurer, d'abord parce que personnellement, j'ai pas de données chiffrées par rapport à ça. On ose espérer que c'est une espèce de défouloir et que ça va pas aller jusqu'à quelque chose qui va se réaliser, mais on n'ose que l'espérer. Et je pense qu'en fonction des personnalités des joueurs, ça peut tout à fait faire vaciller les limites entre qu'est-ce qui est le réel, qu'est-ce qui est le virtuel. Et puis finalement, si ça se passe très bien dans le virtuel et que c'est valorisé... Est-ce que c'est si grave que ça de le faire en vrai, quoi? Mais je crois qu'il faut aussi raison garder. Tous les gamers vont pas passer à l'acte. Après, je pense que c'est une issue supplémentaire qui peut être donnée à des personnalités qui peuvent glisser, hein, qui peuvent être un petit peu limites et qui peuvent glisser. Oui, pourquoi pas?
Bien je pense sûr. Surtout que ça traduit.
Et
ça traduit ce qu'est la société, à savoir la violence sexiste, la violence conjugale, la violence réelle, hein, pour le coup, là, avec des coups ou avec des mots. Elle est majoritairement le fait des hommes à l'encontre des femmes. Hein. Il y a encore une trentaine de femmes qui meurent chaque année de violence conjugale. Donc ça ne fait que, en limite, légitimer, pratiquement.
Univox.
Alors moi je suis en L1 SVG, donc sciences de la vie et de la terre. J'observe pas de sexisme, enfin je suis bien intégrée et c'est le cas de la plupart des filles dans notre filière.
Je pourrais pas parler de sexisme, mais en fait par exemple dans ma promo en Master 2 de neuropsychologie, on est 20 personnes et il y a 19 filles pour un garçon.
C'est plus de l'inégalité que du sexisme.
Moi je trouve pas parce que je suis dans la même filière qu'elle et c'est le seul garçon, mais je trouve que dans la filière de psycho, les garçons sont quand même privilégiés en fait. Dès qu'on aborde quelque chose sur la différence garçons et filles, tous les profs vont faire « Ah les garçons, coucou !» Enfin, ouais, ils ont plus de chances d'être pris parce que du coup il y en a beaucoup moins, donc ils sont plus facilement remarqués et voilà.
Ce qui est bizarre, c'est que tous nos profs sont des hommes et on n'a qu'une seule prof femme. C'est là où c'est bizarre, c'est qu'on se dit que finalement l'évolution au niveau de la recherche, c'est plus masculin. Bah voilà, en tant que femme, est-ce qu'on a aussi les chances d'évoluer au niveau de la recherche, d'être docteur ?
Sabrina Septi, chargée de mission égalité à l'Université d'Angers, revient sur les chiffres surprenants du nombre d'étudiantes en sciences et nous aide à comprendre ce phénomène. Pourquoi la mixité des filières est-elle si difficile encore aujourd'hui ?
Les femmes sont statistiquement en fait plus amenées vers les lettres, les sciences humaines, les sciences sociales et puis les hommes vers ce qu'on appelle les sciences exactes. Alors à l'Université d'Angers, les filles constituent 77% des étudiants en lettres et sciences humaines et elles sont moins de 30% dans le domaine des sciences fondamentales. C'est les statistiques qu'on peut retrouver sur votre site internet. Comment est-ce qu'on explique ça ? Est-ce que c'est un penchant, comment on explique ce penchant ? Ou alors est-ce que c'est une obligation ? Enfin, une obligation enseignée ou quelque chose qu'on dit aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, quoi. Vous êtes plus fait pour les maths ou vous êtes plus fait pour les lettres ?
Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que là, l'université est un petit peu moins responsable dans le sens où il nous arrive déjà et que tout le travail, enfin, si je peux parler comme ça, tout a été fait depuis la maternelle, je dirais même la crèche. Hein, comme vous regardez dans ces périodes de Noël, les façons de choisir les jouets, les magasins de jouets, c'est quand même très très présent dans notre société. Donc c'est déjà l'orientation, on travaille avec justement les conseillers d'orientation, il y a tout un travail, il y a quand même une prise de conscience de ce problème vraiment important des filles au moment de l'orientation, hein, qui est plus, je dirais, beaucoup plus en lycée. On a déjà ce problème, alors qu'elles sont en réussite, les filles ne vont pas se diriger forcément dans des filières scientifiques. Ça, c'est assez souvent, on dit assez souvent qu'un garçon ne va pas se poser le problème, va essayer de toute façon ce qui lui plaît. Une fille va se trouver que ça ne va pas être si facile que ça, qu'elle n'en est peut-être pas capable. Il y a quand même une autocensure qui est évidente, en plus du reste.
Et est-ce que ça change au fur et à mesure ou est-ce que c'est toujours un constat que vous faites depuis longtemps ?
Alors justement, avec les chargés de mission, hein, puisqu'on est quand même des chargés de mission, donc normalement maintenant, un ou une par université, par grandes écoles, enfin par école, en tous les cas dans le supérieur, qu'on se retrouve, c'est quelque chose qu'on constate, qu'au contraire, c'est même en train de régresser, quoi. Qu'on a même l'impression que oui, que c'est en train de régresser, qu'il y avait plus de filles auparavant. Qui accédait, que là, il y a une censure. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose. C'est pour ça que les missions égalité ont encore du travail et c'est le côté positif que de s'attaquer à ce problème-là.
Mais alors, comment est-ce que concrètement on s'y attaque? Puisque c'est un de vos rôles de favoriser cette mixité dans les filières, comment est-ce que concrètement, là, vous menez des travaux avec les conseillers d'orientation, mais comment est-ce que ça se concrétise sur le terrain pour faire passer ce message-là aux lycéens? Parce que ça se prend dès le lycée avec les admissions post-bac, c'est au problème-là.
Avec justement l'université, on a un groupe de recherche qui travaille sur le genre et les discriminations. Et au niveau des lycées, je sais qu'il y a déjà des actions mises en place. Il me semble qu'il y a un prix pour les lycées, un prix justement sur l'égalité, sur comment on essaye d'orienter les filles, comment on essaye de faire venir des filles même dans des filières de mécanique, parce que ça se passe aussi dans l'autre, dans certaines filières où c'est pas facile non plus pour une fille de se retrouver dans une filière. Les stéréotypes, c'est pas facile pour sa famille, pour son entourage, pour elle quand elle est au quotidien, et pouvoir aider ses filles à faire ce qu'elles ont envie de faire, et pouvoir aussi dire aux garçons d'aller aussi dans les autres filières de lettres et où ils sont moins nombreux.
Vous écoutez Univox sur Radio Campus, un Univox aujourd'hui consacré au sexisme. Zoomons à présent sur le sexisme en politique. Laetitia Nardi, Nina Berlet et Yannick Held sont trois jeunes Européens chargés des jumelages à la mairie d'Angers. Ils viennent d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne et nous livrent leur regard sur le sexisme en Europe.
Vous rempliriez bien un caraco bavarois. C'est en substance le compliment pour le moins déplacé que le candidat libéral à la chancellerie allemande a lancé à une journaliste.
La prego, Presidente, la prego.
Non, mi preghi, ma io...
But he's now a GP. Calm down, dear. Listen to the doctor.
Laetitia, si on commence par toi,
oui.
On peut par exemple donner cette anecdote. Début 2014, Beppe Grillo a posté sur sa page Facebook la phrase suivante: que se passerait-il si tu trouvais la Boldrini avec la Boldrini en voiture? Laura, oui. Boldrini, c'est la présidente de la Chambre des députés. Ouais. Ça a fait un gros scandale puisque ça a donné lieu à des propos sexistes. Vous sortez de l'ère Berlusconi et donc ça a fait des dégâts.
Ça fait des dégâts et ça fait des dégâts qu'on pouvait prévoir dans un certain sens, parce que Grillo est un peu héritier de cette ère, on va dire. Lui aussi, même s'il veut casser avec cette ère précédente, il retombe dans ses préjugés sexistes et il joue avec une... c'est très naturel la façon dont il fait. C'est presque instinctive sa façon de prendre les femmes. C'est très facile de parler des femmes, de susciter des commentaires qui ramènent au viol, qui ramènent à la violence envers les femmes. Donc c'est ce qui s'est passé sur Facebook. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi
C'est aussi un lieu où finalement la violence, on peut se cacher derrière l'anonymat pour exprimer sa violence et ses préjugés. Donc voilà, ça a été un exemple triste, on va dire, comme il y en a beaucoup.
Tu expliquais tout à l'heure, avant l'antenne, qu'il y avait des ministres aussi femmes qui elles-mêmes se sous-estimaient quelque part.
Oui, enfin, je sais pas si je pense qu'elles se surestiment, dans le sens où on entend dire, ces ministres femmes qui se disent porteuses de fémininité, d'une façon féminine de faire de la politique, ce qui est très bien, et ce qui pourrait apporter vraiment des belles choses à la politique. Mais après, elles poursuivent leur discours en disant bah oui, ma féminité en politique, ça veut dire aller chez l'esthéticienne une fois par semaine, faire mes ongles, je vais chez le coiffeur. Donc, ça, c'est démoralisant de voir des femmes qui représentent les femmes italiennes dire des choses pareilles.
Nina, en Angleterre, sur le plan politique, tu parlais tout à l'heure de Gordon Brown, un ancien Premier ministre, dont on a entendu parler hier.
Oui, c'est ça. Alors, Gordon Brown, il est retraité depuis hier, en fait. Alors maintenant, les gens veulent analyser le profil de Gordon Brown. Et ils disent qu'une chose qui va souvenir de lui après, ça serait le fait qu'une fois, il était avec une femme, il a parlé avec une femme dans la rue, je pense. Et après, il était enregistré dans la voiture en disant qu'il était bigote. Alors, c'était après la conversation avec elle, mais tout le monde rend compte qu'il a dit ça. Alors, c'est un exemple assez populaire de sexisme dans des politiciens en Angleterre. Alors oui, il existe toujours les attitudes, on dit anciennes, mais bon, c'est en train de changer aussi. On trouve qu'il y a plusieurs femmes dans le domaine politique. Il y a un peu le quota d'avoir 50% de femmes dans le cabinet. Et maintenant, c'est un peu la discrimination positive parce qu'on veut voir plusieurs femmes. Bon, je pense qu'ils ne sont pas très sous-estimés. Par contre, il y a Harriet Harman qui est le vice-leader du gauche en Angleterre. Il a un profil assez important. Mais il y a beaucoup de politiciennes qui sont ciblées dans les journaux. Il y a plusieurs scandales qui impliquent les femmes aussi. Alors, ils sont traités de la même manière.
C'est l'égalité partout.
Oui.
Yannick, on a entendu tout à l'heure là, dans le son cette phrase qui avait été sortie par un candidat à la chancellerie qui disait « Vous pourriez remplir un caraco bavarois à une journaliste qui s'appelle Laura Himmelreich ». C'est comme ça qu'on prononce. Merci, t'es gentil. Il s'en est suivi un tollé, une espèce de scandale qui a été alimenté notamment par un hashtag qui s'écrit Aufschrei,
oui,
qui veut dire
oui.
Cri, quelque
oui,
part.
Oui, c'est ça, oui. En fait, oui, il y avait cette interview entre Madame Himmelreich et Monsieur Brudale, ça c'est l'homme politique. Et pendant cette interview, il y avait cette scandale du sexisme, cette insulte, en fait. Et à la suite, après la publication de cet article-là, elle a fait le hashtag Aufschrei. Et c'était en début 2013. Et il y avait plus de 10 000 tweets en relation avec qui utilisait cet hashtag-là. Et ça a lancé beaucoup de débats, beaucoup de discussions dans la télévision, dans les médias, dans la presse, partout en Allemagne. Et on a parlé du harcèlement sexuel dans la vie quotidienne et au travail des femmes. Et il y avait beaucoup de femmes qui ont dit « oui, j'ai eu aussi des situations comme ça et machin ». Et en fait, en été 2013, cette campagne avec le hashtag a reçu le Grimme Online Award. Ça, c'est un prix. Et il y avait aussi Adi Schwarzer, en relation avec ça, Ali Schwartz, c'est une féministe depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle a 71 ans. Et elle se bat toujours et elle s'engage très, très fort pour les droits des femmes et pour l'émancipation, pour l'égalité des sexes et tout ça. Et en fait, quelques mois après la publication de, cet article-là, elle a publié aussi un livre qui s'appelle « Es reicht gegen Sexismus im Beruf », ça veut dire « ça suffit contre le sexisme au travail ». Et elle a fait aussi une campagne avec des stickers. Et on peut les coller partout, il y a « ça suffit avec le sexisme » et tout ça, et elle était invitée dans plusieurs discussions et elle a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour informer les gens, pour faire attention sur ces choses-là.
Faire avancer un petit peu les choses.
C'était Courtney Barnett avec Pedestrian at Best. Le 25 novembre dernier, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour cet événement, on recevait Isabelle Morisseau, accueillante au planning familial et spécialisée dans l'accueil des personnes victimes de viols ou d'agressions sexuelles.
On va faire un petit point sur les chiffres. Donc chaque année, 201 000 femmes âgées de 18 à 59 ans sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime, ça veut dire 1,2% de la population. Évidemment, c'est une estimation minimale. En 2013, le nombre total de décès s'élevait à 129 femmes battues sous les coups de leur conjoint. Chaque année, 83 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Et la France comptait en 2004 environ 53 000 femmes adultes qui auraient subi des mutilations sexuelles. Donc les violences faites aux femmes, ça recouvre beaucoup de formes différentes. Si vous voulez bien, on va commencer par les violences domestiques, qui peuvent donc être physiques ou sexuelles. J'imagine qu'il n'y a pas de profil de victime, que ça peut toucher tout le monde.
Oui, on reçoit des personnes effectivement qui sont de toute origine culturelle, de tout milieu socioculturel, des femmes actives, des femmes qui sont au foyer. C'est vraiment une population énorme, des hommes. Beaucoup moins, mais des hommes aussi. Hein. Ce sont les mêmes processus qui font qu'à un moment donné, l'un des deux partenaires dans le couple va nier l'existence de l'autre et puis atteindre à sa dignité d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, violence économique, des violences morales, des situations de séquestration, etc., etc.
Ça, c'est un processus, vous dites, de négation de l'autre ?
Oui. Pour nous, oui, on lit les choses comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'autorise à penser que l'autre doit se comporter comme je veux qu'il ou elle se comporte exactement, et que sinon, ça va mal se passer, avec tout le jeu, dans le cadre du couple, tout le jeu douloureux pour les personnes, de dire, quand elles en parlent, que finalement, elles ne savaient plus à un moment donné quand elles avaient tort ou raison, c'est-à-dire que l'autre tient les règles du jeu, donne les règles du jeu et change en permanence les règles du jeu.
Est-ce qu'on peut aborder la politique qui est mise en place par le gouvernement sur la question justement du droit des femmes ? Par exemple, le gouvernement a ratifié la Convention d'Istanbul en juillet dernier. C'est le 13e État à le faire. La Convention d'Istanbul, c'est une convention qui dresse les standards minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuite des auteurs. Et puis la France a également mis en place un plan triennal sur cette question du droit des femmes. Alors il y a un kit de constatation en urgence des viols expérimentés et le téléphone grand danger généralisé.
Ce dont vous parlez, ce sont aussi des textes internationaux, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la difficulté qu'il y a à essayer de hausser le débat à un certain niveau et d'amener certains pays qui sont bien loin avec nous dans la barque de « on va se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes ». En France, il y a quand même eu des gros progrès, notamment au niveau de la loi. Après, ce sont plus les moyens sociaux qui manquent, c'est-à-dire toutes les structures, que ce soit l'assistante sociale, que ce soit l'hébergement, enfin là c'est compliqué sur le territoire avec des inégalités encore très fortes suivant les régions.
C'est la fin de cet univox consacré aux femmes. On a pu constater que dans beaucoup de domaines, la question du genre est souvent problématique. Si les choses avancent, beaucoup de travail reste encore à abattre. Le 5 mars dernier, l'Algérie a voté une loi criminalisant les violences faites aux femmes. Non sans le désaccord de certains députés qui y voient cette loi comme une intrusion dans l'intimité du couple. Il y a encore du boulot.